Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Quand je veux lire un livre, je l'écris. Benjamin Disraeli, vous ne pouvez savoir à quel point cette citation colle à la peau de mon invité spécial aujourd'hui.
La table des matières.
Tout d'abord, bonjour, c'est Clotilde Seil et ses invités sur les ondes de Canal M. Une nouvelle fois, nous allons partager avec vous des livres, des titres qui sont nouvellement sortis ou peut-être qui sont sortis il y a un petit peu plus longtemps. Nous allons accueillir comme tous les jours, un usager, un abonné du SQLA, j'ai nommé Bernard Tremblay. Mon invité spécial aujourd'hui, elle va rester là toute l'émission, elle a accepté parce que c'est une femme très généreuse et en écriture et en tant que femme, c'est Madame Louise Tremblay-Dessiambre qui est là aujourd'hui avec nous. Nous allons revisiter un classique, j'ai choisi Maria Chapdelaine. Nous allons accueillir Jocelyne Allary qui est bénévole ici chez Vues et Voix et qui nous présente Les Collines du Tigre. Nous allons diffuser un extrait du livre Le Sourire de la Petite Juive de Abla Faroud parce que je reçois la semaine prochaine la bénévole qui a lu ce livre. Et puis bien sûr, il y aura pour finir cette émission plein de titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Et il en mange, oui, de ses livres audio. Bernard Tremblay, bonjour Bernard.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous?
Très bien, vous-même?
Ça va bien, pas trop nerveux, c'est une première pour vous, là.
Ah, bien sûr que je suis l'estomac plein de papillons.
Ah, c'est vrai? Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter cette émission?
Non, pas encore.
Pas encore?
Mais je sens que ça va être une habitude que je vais prendre.
Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous parler. Au revoir, Bernard. Bernard Tremblay, je suis très, très heureuse qu'on puisse se parler aujourd'hui parce que vous allez nous partager une lecture dont nous avons malheureusement, et c'est dommage, trop peu l'occasion de parler. On parle là, c'est pas un roman, c'est un récit. Dites-nous son titre et dites-nous l'auteur de ce que vous voulez nous présenter.
Alors, le titre, c'est « Forestier et oui. Voyageur » de Joseph-Charles Taché.
Alors, Taché comme un pantalon taché, T-A-C-H-E, hein, je le précise pour les gens. « Forestiers et voyageurs ».
Oui, ça a été publié en 1863.
Ah!
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 Ah! Moi, j'ai une démarche qui m'amène beaucoup vers les contes et les légendes.
Oui.
Et depuis quelque temps, je me retrouve beaucoup dans des recueils du 19e siècle.
OK.
Et j'ai trouvé dans celui-ci une superbe lecture.
Qui tient plus, ai-je lu quelque part, du conte folklorique que du roman feuilleton?
Ça a été publié en feuilleton, effectivement, avant dans le mensuel qui s'appelait « Soirée canadienne » que M. Taché avait fondé.
Ah oui.
Mais c'est un assemblage de contes et légendes dans un cadre où on nous ramène chez les forestiers, les hommes qui allaient travailler dans les chantiers l'hiver, et aussi chez les voyageurs, ce qu'on appelle souvent aussi les coureurs des bois.
OK, OK. Coureurs des bois, ceux qui allaient, par exemple, à la fourrure pour faire du
non, oui, tout exactement, ça, exactement? Qui allaient dans les pays d'en haut, et à l'époque, les pays d'en haut, c'était pas les Basses-Laurentides, c'était les Grands Lacs et au-delà.
Ah, d'accord.
Donc, des voyages qui pouvaient prendre 2, 3, 4 mois pour se rendre.
Ah, en effet. Alors, qui raconte? Qui est le narrateur dans ce livre-là?
C'est assez intéressant. L'auteur, Joseph-Charles Taché, nous présente ça au départ comme un récit, justement. Je vais vous raconter, vous présenter ces hommes qui vivent et dans quelles conditions. Mais finalement, il a avec lui un compagnon de voyage qui l'accompagne, le père Michel, et qu'on l'invite à raconter des choses. Lui qui a vécu comme forestier et comme voyageur. Et c'est lui qui, finalement, prend presque toute la place dans le recueil.
Le père Michel qui est né à Kamouraska, hein?
L'auteur est né à Kamouraska le 24 décembre 1820.
Okay.
Mais dans le recueil, effectivement, c'est le père Michel qui raconte « Il y a 65 ans, la veille de Noël, c'était ma naissance à moi. » Un petit clin d'œil. Et c'est le premier récit qui est une anecdote, finalement, qui serait arrivé à l'auteur dans ses premiers jours. Un beau petit clin d'œil.
Et quel est le type d'écriture? Parce que, rappelez-nous, ça a été écrit en 1863. Est-ce que c'est écrit en vieux français ou est-ce
non,
que ça a été
non?
Non,
du tout. Il y a quelques mots qui sont désuets, dirais-je, mais très peu. Il y en a certains dont le sens peut avoir glissé un peu aujourd'hui.
Ouais.
On prend un virage un peu plus à gauche ou un peu plus à droite.
Ouais.
Par exemple, il a beaucoup côtoyé les Amérindiens. Ben, à l'époque, on disait les sauvages. Mais
ah,
les
oui.
sauvages dans le sens de plus près de la nature.
Oui, oui.
Et non
oui.
pas mal élevé.
Non, c'est ça. comme malheureusement, ça a été trop repris d'ailleurs après. Hein. C'est plutôt comme ça.
Oui.
Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces... Qu'est-ce qu'il y avait de remarquable et qui est remarqué dans ce livre, dans la vie de ces forestiers et voyageurs?
Ben, les forestiers, entre autres, c'est qu'on voit... C'est souvent dépeint dans des récits un peu comme dans Les belles histoires des pays d'en haut. Hein, beaucoup de misère dans les romans du terroir, là, le travail à la terre, la prière tous les jours et tout ça. Mais il y avait quand même une certaine gaieté qui se promenait. Et évidemment, il y avait comme ces gens étaient beaucoup isolés, ben il y avait les contes et les légendes qui les entouraient, qui les ramenaient ensemble tous les soirs.
Oui, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Finalement, c'était leur Internet, les contes et les légendes.
Oui,
mais...
et d'ailleurs, apparemment, c'était un facteur de recrutement.
Oui.
Le meilleur conteur attirait les meilleurs bûcherons.
Ah oui?
Dans les camps, oui.
Et alors, on est quoi? On est dans le bas du fleuve, là? On est,
on serait plutôt en Haute-Mauricie ou aux portes de l'Abitibi, là.
OK.
La rivière Gatineau en particulier.
Ah, OK, parce qu'à un moment donné, alors donc c'est moi qui n'ai rien compris au film, on nous amenait, parce que vous savez, je suis allée lire quelques critiques de lecteurs et ils nous parlaient, ils nous disaient que souvent, ils traversaient la côte nord, entre autres, à Tadoussac.
Oui, ça, c'est dans sa portion aventurier. Le père Michel nous raconte quelques histoires. Parce que lui, il est allé jusqu'au pied des Rocheuses, même si dans le récit, au départ, physiquement, il nous raconte cette histoire assis au camp des forestiers.
Est-ce que c'est un livre assez important? Ça représente combien d'heures de lecture à peu près, monsieur?
Un peu plus de 6 heures, mais 6 heures bien agréables, car je dois avouer que sa plume est fort... elle a un beau débit.
Ah, OK.
Au fil de l'eau. On se laisse porter très facilement.
Bah, écoutez, si c'est un bon conteur, en tout cas, on espère aussi que ce soit un bon auteur, quoi.
Oui, oui. Et en plus, il y a quelques éléments d'information qui sont véridiques. Et il y a même un petit côté historique quand on parle du conflit qu'il y a eu quelques décennies avant, entre la compagnie du Nord-Ouest, qui faisait la traite, bien sûr, et la compagnie de la baie du Tson.
Okay.
Qui est venu s'installer dans le même territoire.
Je vois Louise Tremblay des Siambres là qui opine du bonnet si je peux me permettre parce que c'est quelque chose.
Ça me rappelle des choses que j'ai étudiées à l'école, ça. les deux noms de compagnies là, ça me dit quelque chose.
Oui. Aujourd'hui, on change simplement le nom des compagnies, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a les mêmes guéguerres. Non, mais c'est fou pareil quoi.
Ben, à l'époque, ça a été littéralement ça. Les gens de la compagnie de la baie du Tson sont même débarqués avec des petits canons à un certain moment.
Ah oui, en effet. Fait.
Pour attaquer les postes de traite.
Avec des petits canons, hein? OK,
ouais.
OK, excusez-moi. Non, parce qu'au début, j'avais compris, avec des petits canons, mais on parle bien de petits canons, boum, boum.
Oui, effectivement, les petits canons et les grands canons. Les grands canons pour aller sur les grands lacs
aussi,
qui faisaient
aussi.
Des 3 ou 4 mètres de longueur et les petits canons qui pouvaient transporter 2 ou 3 personnes pour les plus petites rivières.
Alors, un livre à déguster, surtout si on aime les grandes descriptions, parce qu'évidemment, on décrit beaucoup la nature, les outils, les soirées, le travail,
oui,
hein, oui. Tout ça. Hein.
Oui, mais sans surcharge.
Non,
OK. Ça s'écoute très bien.
On n'est jamais fatigué.
Oh non!
Bernard Tremblay, je voudrais rappeler le titre du livre, « Forestiers et voyageurs ». Donc,
oui.
C'est au pluriel. Ça a été écrit en 1863 par un monsieur Joseph Charles Taché, T-A-C-H-E. Je me souviens plus, ça fait combien de temps que c'est disponible? Ça fait quelques années déjà que c'est disponible.
Ah, ça, je ne pourrais pas vous dire.
Oui, il me semble bien.
Je l'ai lu le mois dernier.
Bon, mauvaise fille, j'ai oublié. En principe, je regarde toujours quand est-ce que c'est sorti. Mais en tout cas, c'est disponible au SQLA. Bernard Tremblay, je vous remercie tellement d'avoir participé à cette émission. Continuez de lire parce que je sens que je vais vous rappeler dans les semaines à venir, vous. Hein.
Ah, ben, je vais répondre.
C'est vrai? Et puis, écoutez notre émission.
Oui, tout à fait.
Je vous jure que vous ne serez pas déçus, puis ça va vous donner plein d'idées de lecture.
Ah, je n'en doute pas. Si vous avez déjà des invités qui portent le même nom que moi, c'est déjà plus qu'en invitant.
C'est quelque chose. Merci beaucoup, Bernard Tremblay. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci.
Et on se reparle très, très rapidement et bonne lecture.
Oui, au plaisir.
Bye.
Au
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et je dois dire que je suis particulièrement touchée, émue, contente d'accueillir aujourd'hui Louise Tremblay des Siambres.
Merci, tout ça pour moi.
Oui, oui, tout ça pour vous parce que je trouve que lorsqu'on a la possibilité de côtoyer quelqu'un qui a réussi par son écriture à rallier autant de monde autour d'elle et que ce soit sur papier ou par audio, parce que je peux vous dire que dans le domaine des livres audio au SQLA, il faut un petit peu de patience avant de lire de Louise Tremblay des Siambres parce que les livres sont quasiment tous prêtés.
C'est bien.
Ça vous fait quoi quand on vous dit ça? Est-ce que maintenant vous l'avez assez entendu?
Non, on n'en a jamais assez de ça. C'est un travail de solitaire, l'écriture,
ouais.
Bien sûr. Mais on veut rejoindre les gens. Alors, quels qu'ils soient, je suis contente de savoir que les gens qui ont des problèmes de vision puissent continuer à lire.
Absolument.
Ça, je trouve ça absolument génial.
Vous avez été touchée par la visite que vous avez faite
de
l'organisme. On ne s'attend pas à ça. On a du mal à figurer toutes ces cabines et tous ces gens.
C'est une petite ruche bien active. C'est merveilleux.
Avec vos mots à vous, donc, et notamment les mots de Louise Tremblay des Siambres, vous dites sur votre site Internet, « Je ne connais rien de plus difficile que de parler de soi. J'ai toujours peur d'exagérer. »
C'est vrai.
Exagérer en quoi? Qu'est-ce que vous pourriez...
En bien ou en mal. Des deux côtés. On est ce qu'on est. C'est pas dans ma nature de passer son temps à m'auto-analyser. Je me lève chaque matin et j'essaie de faire du mieux que je le peux la journée qui s'offre à moi, tout simplement. Alors, quand dire?
Ouais.
Je mange, je m'occupe de ma pinotte à la maison. J'ai encore une jeune demoiselle de 14 ans à la maison.
Les 8 autres sont partis parce que vous avez eu 9 enfants?
Oui, j'ai eu 9 enfants. Par choix. On ne vit plus au début du siècle. Moi, je ne suis pas comme la Emma de mon livre, de ma dernière série, qui, elle, a subi les maternités les unes à la suite des autres.
Oui.
Moi, ça a été des maternités vraiment voulues.
Voulu.
Oui,
et
vraiment.
Votre petite pinotte, elle a quel âge? Alors, la
elle vient
dernière.
D'avoir 14 ans, la jeune demoiselle. Elle n'était pas dans mon plan de carrière, par exemple. Elle vient de deuxième mariage. Alors, elle a 10 ans de plus jeune que les autres. Et c'est ça, je regoute aux joies de l'adolescence, présentement.
Et au milieu de tout ça, de tous ces enfants qu'il faut élever, c'est le moins qu'on puisse dire, 9 enfants dans les années 2000, c'est quelque chose.
Mm-hmm.
Il y a ces nombreux enfants en littérature.
Oui.
Vous signez des livres, ce sont des séries. Par exemple, on va parler de cette série, Les Héritiers du Fleuve, mais la série d'avant.
Les Mémoires d'un quartier.
Les Mémoires d'un quartier, il y avait combien de tomes?
Il y en a eu 12, il n'y en aura plus jamais 12. C'est très exigeant. Un livre, c'est comme une bouteille de vin. Le livre qu'on lit ne doit pas faire regretter celui qu'on a lu.
Oh,
alors, il faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose de plus, une étape. Rendu à 12, là, on se dit, bon, on ne doit pas se répéter, on doit apporter cette... Alors oui, j'ai trouvé ça lourd d'attente de la part des gens, lourd de Ça demande beaucoup. Alors, je me suis dit, bon, on va s'en tenir à 4, peut-être 5, mais on dépassera plus ça. J'ai plus l'âge. Je vieillis, puis j'ai le goût de prendre ça un petit peu plus relax.
Le syndrome de la page blanche, Louise Tombé-Desciambre, oui?
Tous les matins.
Et comment on lutte contre ça? On écrit, puis après, on barre ou...
Non, on relit ce qu'on a fait la veille, en corrigeant. Ce qui veut dire que chaque partie de livre, chaque phrase, chaque paragraphe a été lu, relu 20 fois, 25 fois et corrigé 20 fois, 25 fois. Encore ce matin, avant de venir, j'ai lu ce que j'avais fait hier. Je n'avais pas le temps de rajouter du texte aujourd'hui, mais j'ai relu, j'ai corrigé, j'ai... C'est Stephen King qui disait « Un bon manuscrit est un manuscrit dans lequel on a coupé 20 %.» Ah. Alors, faut avoir le crayon gras. Faut être capable de le faire. C'est difficile. Il y a des fois qu'on n'a pas envie de, mais oui, effectivement, il faut faire confiance au lecteur. On n'a pas besoin de toujours répéter. Il l'a compris.
Est-ce que vous avez un dimanche, Louise Tremblay-Desciambre, ou c'est du 7 jours sur 7?
7 sur 7.
Tous les auteurs disent ça. À chaque fois, je me dis, là, je vais en trouver un moment donné qui va me dire, ça n'existe pas. On n'imagine pas, et c'est pour ça que je veux le redire ici, à quel point l'écriture est un sacerdoce. Êtes-vous d'accord avec ça, Louise Tremblay-Desciambre?
Oh, c'est pas un sacerdoce pour moi, c'est une passion.
Une passion.
C'est une passion. Quand on aime quelque chose, moi j'aime le spaghetti, j'en mange au moins 2 fois par semaine, n'est-ce pas?
Avec une salade.
Avec une salade, moi aussi j'ai ce côté, côté givré, puis le côté, santé. Mais... Non, pour moi, une journée sans mes personnages, je vais m'ennuyer. Ils m'habitent au même titre que mon mari et ma fille avec qui je vis quotidiennement. Ils sont là, ils sont dans mon bureau, ils m'attendent. Je ne suis pas capable de les laisser attendre trop longtemps. J'ai besoin de ça. Quand les gens nous disent, ils me le disent souvent, « Arrêtez pas ». Mais non, je ne pourrais jamais arrêter en ce sens que c'est moi que je punirais. J'en ai besoin, comme j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de boire et manger. L'écriture fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai appris à lire à l'âge de 4 ans et ça me suit depuis ce temps-là parce que pour moi, c'est une même passion. Lire, écrire, c'est la passion des mots, point.
Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont amené à la lecture?
C'est maman qui m'a amené à la lecture, mais c'est papa qui m'a amené à l'écriture.
Oh,
parce que papa est un conteur absolument extraordinaire. Il vivrait aujourd'hui, il serait jeune. Je dirais à Fred Pellerin, attache ta tuque, tu vas avoir de la compétition.
Ah ouais.
Papa, c'est un conteur extraordinaire. Et quand j'étais à une bobinette de 2, 3, 4 ans, il inventait des histoires juste pour moi. Des histoires qui n'avaient pas d'image pour les soutenir. Alors, c'est ma tête à moi qui les faisait. Ah. Et bon, soir après soir, j'avais un petit bout de l'histoire. J'avais 24 heures pour inventer la suite. Et quand on revenait le lendemain, papa disait « Où on est rendu, là? » Ben, je disais « Bon, on est rendu à telle place.
Ouais. »
Il disait «
Ah ouais. »
Il y avait une grosse minute de silence. Et quand il reprenait son histoire, il commençait toujours par autre chose que ce que moi, j'avais imaginé. Alors, un jour, j'ai eu le goût de faire des images à mon tour, tout simplement.
Et vous avez écrit un premier livre et il a été édité.
Oui, j'ai eu ce privilège incroyable. D'être sélectionné comme ça une première fois. Première maison, premier contrat, ça a été tout de suite. C'est un privilège, puis c'est un privilège d'avoir su toucher le cœur des gens,
oui.
Ce qui fait que c'est mon métier.
Et non seulement ça, mais permettez-moi aussi de le dire, et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il est évident que je ne veux pas parler que d'argent et de mercantilisme, mais le nombre d'écrivains, d'auteurs, que ce soit au Québec, en France, partout dans le monde, qui ne vivent pas de leur plume,
eh oui.
Ce n'est pas votre cas.
Non.
Alléluia.
C'est pour ça que je dis que c'est un privilège immense.
Ouais, c'est
parce
ça.
Que c'est pas vrai que quelqu'un qui n'en vit pas n'est pas bon.
Non, c'est ça. Puis ça doit être terrible.
Excellent.
Et puis écrire et de ne pas être lu.
Oui, mais il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Il faut inonder le marché. C'est pour ça que pendant quelques années, les gens disaient, mais pourquoi il y en a autant? Je voulais arriver à l'endroit où je suis aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup. Et bon, ça a donné ça, mais ça a pris 10 ans avant de dire que je vivais de ma plume. Ça a pris 10 longues années. Bon, des années de plaisir aussi. Parce que j'aime ce que je fais. J'ai eu le privilège de rencontrer un éditeur qui a été extraordinaire, qui a toujours cru en moi, et de rencontrer...
Qui est toujours le même maintenant? Est-ce qu'on parle
de Guy Saint-Jean? Oui, c'est toujours M. Guy Saint-Jean.
D'accord.
M. Saint-Jean est décédé, mais il a passé le flambeau à ses filles qui sont... Okay. qui ont vraiment relevé le défi avec brio, vraiment. Et bon, il y a eu un second mari qui m'a soutenue dans ça, puis qui a dit, regarde, toi, ta job, c'est d'écrire. Vas-y. Alors, je te wow. soutiens. Alors, c'est tout ça mis ensemble, puis c'est le public qui s'est tanné d'être sur une liste d'attente, qui a dit, bon, ça y est, là, j'en ai assez, on va l'acheter. Et ouais. tranquillement, ça ouais. fait de boule de neige.
Je voudrais qu'on revienne sur deux titres. D'abord, une série, Les héritiers du fleuve. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité. D'une part, parce que je voulais que vous nous parliez justement de votre amour de la littérature, parce que ça, je le savais, et de l'écriture. Les héritiers du fleuve, le tome 3 vient d'arriver au SQLA. Oui, on a toujours un livre de retard, malheureusement, parce que ça prend toujours le temps de la production sonore. Et je sais qu'on est déjà en train de travailler sur le quatrième et dernier tome, donc il devrait sortir d'ici quelques mois. Mais là, donc, le tome 3, Les héritiers du fleuve. Évidemment, comment peut-on résumer une histoire comme ça? Je vous demande juste, si par hasard, quelqu'un ne savait pas de quoi ça parle, si par hasard, quelqu'un n'avait pas lu les héritiers bon, du fleuve.
Le Québec, la fin des années 1800, moi, je trouve important de connaître d'où l'on vient
ouais.
pour comprendre où on est mm-hmm. et où on veut aller. Mm-hmm. Donc, c'est un peu tout ça. Cette époque où, finalement, avant le camionnage, où le fleuve était le grand boulevard du Québec, on mm-hmm. se promenait... C'est un peu bête de dire ça, mais en 1887, il était plus facile de se visiter d'une rive à l'autre ouais. et plus court dans le temps qu'aujourd'hui, alors qu'on doit faire le détour par Québec pour prendre le pont ou qu'on doit se rendre ouais. à Tadoussac pour prendre le traversier. Ouais. À l'époque, il y en avait des caboteurs qui traversaient tous les jours. Alors, on pouvait aller visiter la parenté de l'autre côté. C'est sûr, on était arrêtés durant l'hiver parce que là, les glaces prenaient toute la place. Ouais. Mais il y avait quand même de mai à octobre, novembre.
Autrement dit, dans Les héritiers du fleuve, en dehors de tous ces personnages que vous aimez, que l'on suit pendant 4 tomes, là, nous, on est rendu au tome 3, le fleuve est aussi un personnage
en
essentiel.
Soi, oui. Oui, en soi, oui. Il va aller chercher sa part de aller chercher son salaire aussi en vies humaines, parce que c'était quand même pas facile non plus. Là.
Non, c'est ça.
C'était une époque difficile. Mais malgré les difficultés au quotidien, malgré ce manque de facilité comme on a aujourd'hui, je crois que c'était une belle période. Mm. C'était cette période de l'entraide, c'était cette période de on prenait le temps de vivre, on vivait avec la nature, on vivait avec le soleil, on se levait et on se couchait avec lui.
Et on était très axé sur la collectivité beaucoup plus que maintenant, oui. où je pense qu'on est beaucoup plus axé sur l'individualisme.
Quoi. Tout à fait. Moi, quand j'étais jeune étudiante, on me disait, bon, au tournant du siècle, ça sera une société des loisirs. Je regarde mes enfants aujourd'hui, ils travaillent bien plus que moi, je l'ai fait.
Ouais.
Il est où le loisir? Ils n'en ont plus. La fin de semaine, c'est la course folle pour réussir à tout faire et... Bon, finalement, je pense qu'on a été... À ce niveau-là, j'ai été privilégiée aussi. J'ai eu de belles années.
Comment on fait, Louise Tremblay d'Essiambre, lorsqu'on fait naître des personnages, on les met au monde, et à un moment donné, on referme le 12e tome, par exemple, d'une série, et on dit au revoir à ces personnages-là, ou alors on les fait mourir?
Un deuil.
C'est un deuil,
C'est un deuil, c'est un deuil. On s'ennuie. Moi, j'avais, dans les mémoires d'un quartier, j'avais un personnage assez pittoresque, elle s'appelait Évangeline, mm-hmm. Une femme bien en gueule. Et son patois, c'était vierge. Alors, je m'ennuie d'elle.
Ah, ouais.
Moi, les personnages, quand je dis qu'ils m'habitent, c'est que quand j'entre dans mon bureau, ils sont là, ils m'attendent tous les matins. Et quand c'était Évangeline qui prenait toute la place, c'était quelque chose. Là, actuellement, c'est Célestin. Un peu simple d'esprit, un grand gaillard. J'adore ce personnage-là. Et il a été patient, il m'a attendu pendant un mois, là. Il était assis, les deux mains sur les genoux, il attendait que je lui dise, bon, c'est à ton tour, vas-y, raconte-moi. C'est eux qui me racontent leur histoire.
Et est-ce que ça vous tenterait de vous écouter écrire? Parce que j'ai pour vous un extrait d'un livre qui a été lu ici. C'est un extrait de Au-delà des mots, un certain rendez-vous avec la mer. Donc, c'est quelque chose que vous avez écrit en 99.
Oui, Au-delà des mots, c'est autobiographique.
Voilà. Mais, par contre, ça a été enregistré il y a très peu de temps. Donc, c'est une nouveauté pour nous. Du moins, ça vient de sortir au SQLA. Je vous propose un extrait de ce livre tel qu'il a été lu ici chez Vues et Voix. Bon, je l'ai un petit peu enrobé de petites choses. Bon. D'accord, allez.
Début mai. Le soleil est fidèle au rendez-vous, enveloppant les réveils de Marie-Claire d'une lumière pleine de promesses. Promesses de chaleur, de douceur et de senteurs merveilleuses. L'été. Marie-Claire est une femme d'été. Hier, André a préparé la piscine avec les enfants. Après quelques jours de beau temps pour chauffer l'eau, la saison des baignades pourra commencer. En y pensant, Marie-Claire s'étire d'aise entre ses draps fleuris. Elle aime le soleil, la chaleur et le contraste de l'eau fraîche sur sa peau moite, tout comme elle aime le travail de la terre avec sa senteur d'humus. Une senteur de vie, comme elle le pense chaque fois qu'elle remue la terre. C'est aujourd'hui qu'elle s'est promis de semer le potager. Elle est heureuse de ce que la saison soit légèrement en avance cette année avec ses nuits douces et ses journées de soleil. D'un coup de pied, Marie-Claire repousse les couvertures et se lève.
Ça fait drôle.
Eh bien, c'est moi qui ai écrit ça.
Et ça aurait pu être votre voix. Avez-vous remarqué que la voix
Exactement.
De la lectrice est très semblable à la vôtre?
Oui, effectivement, c'est la première chose qui m'a... Vous voyez, je souffre de dégénérescence maculaire. Il va peut-être arriver un jour où j'aurai besoin de vos livres pour moi. Mais de les entendre comme ça enlève beaucoup de cette anxiété qui est la mienne.
Ah, ben écoutez, ça me touche beaucoup. Il faut quand même que je précise que malheureusement, nous n'avons pas le temps ni les moyens de production pour pouvoir encadrer toutes nos lectures avec ces petites musiques-là et tout ça. Mais il n'empêche que la voix déjà seule est déjà tellement empreinte de plein de choses.
Et, oui, exactement.
Donc nous écoutions, je vais te dire pour nos auditeurs, un extrait de Au-delà des mots, un certain rendez-vous avec la mer, qui est un livre autobiographique que Louise Tremblay-Dessy-Ambre, qui est mon invitée aujourd'hui à l'émission Un livre découvert, a rédigé, a écrit en 1999 et qui est maintenant également disponible au SQLA. On se quitte quoi, deux petites minutes et on se retrouve tout de suite après avec notamment une autre invitée. La bénévole du jour, Jocelyne Allary, qui est déjà avec nous. Ça va bien, Jocelyne?
Oui, ça me fait plaisir d'être ici.
À plus tard.
Oui.
Vous écoutez À livre découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et quoi de mieux que la musique pour nous replonger dans un univers? Cette semaine, le classique de la semaine que j'ai décidé de revisiter, en tout cas, ce que j'ai décidé peut-être de vous remettre en mémoire, c'est, vous l'avez peut-être compris déjà en écoutant cette musique, c'est Maria Chapdelaine de Louis Aimon. Cette évocation du Québec traditionnel, hein, décidément, c'est un peu un leitmotiv dans cette émission-là. Nous sommes au début du 20e. Vous savez qu'il y a eu plus de 150 éditions traduites en 25 langues de Maria Chapdelaine. Et puis évidemment, ça a été adapté au cinéma plusieurs fois. On a tous, toutes et tous, je pense, l'image, surtout de Carole Laure, hein, dans le rôle de Maria, dans ce drame qui met en scène la vie pittoresque et courageuse des pionniers, des Canadiens français, comme on les appelait à cette époque-là. Alors nous sommes dans ce petit village du lac Saint-Jean, au nord de la ville de Québec, où d'ailleurs notre bénévole du jour, Jocelyne Allary, est retournée récemment. Et vous en avez profité pour relire Maria Chapdelaine.
Oui, j'ai voulu m'en imprégner.
Ah, mais ça, je trouve ça épatant. Et il y a donc cette jeune Maria qui doit faire son choix entre trois prétendants. On se souvient de l'histoire, ce François Paradis, ce coureur des bois, justement, dont nous parlions un petit peu plus tôt à l'émission. Lorenzo Surprenant, le Canadien exilé aux États-Unis. Et puis Eutrope, gagnant Eutrope, dis donc. Ça, c'est vraiment un prénom que j'avais. Qui est son voisin, défricheur, comme le père de Maria. Mais on se souvient qu'il va y avoir un événement inattendu qui va bouleverser l'avenir de la jeune fille, qui sera partagée entre son amour pour sa famille, pour ses hommes, pour la terre, et puis la vie facile des villes où elle finira par succomber avant de revenir. Louis Aimon, savez-vous que cet auteur-là, il n'est pas du tout québécois, hein, il est né à Brest en 1880. Il a passé quelques années à Londres et il a quitté femme et enfant à l'époque pour le Canada. Il a déjà, avant d'écrire Maria Chapdelaine, il avait écrit quelques nouvelles. Il avait écrit Colin Maillard, il avait écrit Battling Malone. Et puis, il a écrit son dernier chef-d'œuvre à Péribronka, sur les lieux mêmes où se déroule l'intrigue. Avant, et ça je l'ignorais aussi, M. Louis Aimon est mort de façon atroce. Il a été happé par un train. Et ça se passait à Chapleau, en Ontario. Ben oui, on ignore ça complètement, mais c'est cela. Alors, dans ce livre, on parle beaucoup d'attachement à la terre et aux traditions. Alors, ce personnage, elle s'incarne au milieu de tous ces autres hommes autour d'elle qui gravitent, qu'elle désire, qui l'agacent, qui tout ça. J'ai pas envie de retomber dans tous les détails de l'histoire parce qu'on s'en souvient bien, mais j'ai trouvé quelque chose de très chouette qui avait été écrit en France où le personnage de Maria Chapdelaine était présenté comme une belle grosse fille, simple et vaillante. Et là, je revoyais Carole Laure et je faisais « Mon Dieu, on est à des années-lumière de ça ». Alors, ce que j'ai envie de faire, peut-être, c'est de vous lire un petit extrait, une des versions de Maria Chapdelaine sur une musique qui a son importance non seulement dans l'extrait, mais dans le livre. J'ai perdu ma maîtresse pour lui avoir mal parlé, pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. Maria regardait par la fenêtre les champs blancs que cerclait le bois solennel, la ferveur religieuse, la montée de son amour adolescent, le son remuant des voix familières se fondaient dans son cœur en une seule émotion. En vérité, le monde était tout plein d'amour ce soir-là, d'amour profane et d'amour sacré, également simples et forts, envisagés tous deux comme des choses naturelles et nécessaires. Ils étaient tout mêlés l'un à l'autre, de sorte que les prières qui appelaient la bienveillance de la divinité sur des êtres chers n'étaient guère que des moyens de manifester l'amour humain, et que les naïves complaintes amoureuses étaient chantées avec la voix grave et solennelle et l'air d'extase, des invocations surhumaines. Je voudrais que la rose fût encore au rosier, et que le rosier même à la mer fût jeté. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Louise Tremblay des Siambres, c'est un bon souvenir pour vous, Maria Chapdelaine?
Pas vraiment, en ce sens que ce fut un livre obligatoire à l'école. Adolescente, donc... Non, j'ai été obligée de le décortiquer. Okay. Je vois ma fille qui le fait actuellement avec certains livres. Elle vient de lire Le Passeur.
Ouais.
Elle est annotée, collée des petits papiers. Je trouve ça un peu triste parce que ça enlève la spontanéité de la lecture. Ça enlève un petit peu ce plaisir. Alors, moi, je lui ai conseillé dernier, je lui ai dit, prends chacun des chapitres, lis-le pour le lire. Et tu y reviendras après pour annoter.
Est-ce que vous relisez vous-même parfois des classiques?
Oui.
Oui?
Oui. J'ai relu Marcel Pagnol récemment.
Oui.
J'avais vu Le Château de ma mère, La gloire de mon père. Et,
La Pomponetta.
C'est ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la saison des amours, la saison des regrets qui suivait. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'avais la voix de Philippe Noiret qui me racontait ça dans ma tête. Et,
rien de moins.
Oh, c'était absolument génial. J'aime revenir. Un auteur français, philosophe, Cesbron. J'adore relire. Il y a des descriptifs, il y a des... Oh, mon Dieu, c'est génial. J'ai un de mes fils qui étudie en littérature actuellement à l'Université Laval. Et justement, il est plongé dans les livres des années 1800. Puis il dit, maman, que les gens écrivaient bien à cette époque. Alors, moi, ça me donne le goût de revenir à mes anciens. Mais je suis un très, très, très amateur de romans policiers.
Ah,
ça, c'est mon plaisir coupable.
Ah, on adore. Et de spaghettis.
C'est ça.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
La bénévole du jour aujourd'hui, Jocelyne Allary, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Je suis très contente de vous recevoir. Je voudrais dire que vous faites partie de ces nombreux bénévoles qui viennent à chaque semaine pour lire des livres. Et je voudrais préciser quand même que nous sommes à Montréal. Et oui, je vais le dire, Jocelyne. Jocelyne vient de Granby quand même. Qui chaque pleut, semaine, qui neige, qui verglace, qui...
Oui,
allez hop, on saute dans la voiture et on vient lire des livres.
Oui, parce que j'ai un engagement, je respecte mes auditeurs aussi.
Ben oui, mais c'est formidable
quand
même.
Ils sont en attente.
Et récemment, vous avez lu un livre que vous avez aimé, apprécié, vous avez eu envie de nous partager. Quel est ce bouquin?
En fait, je vais vous parler d'un titre qui s'appelle Les collines du tigre, qui a été écrit par Sarita Mandana.
Je voudrais l'épeler. Oui. Je m'excuse de vous interrompre parce que, avant d'oublier, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Alors, Sarita, S-A-R-I-T-A, Mandana, M-A-N-D-A-N-N-A.
Oui. Il a été publié en 2010.
Oui.
Et c'est une traduction de l'anglais. Mm-hmm. Et Sarita Mandana, elle est née en Inde et elle vit aujourd'hui au Canada. Voilà. Et moi, c'est un des premier livre que j'ai lu ici en tant que bénévole. Alors, je vous avoue que j'ai pris une expérience qui est quand même intéressante depuis ce temps-là.
Ouais.
Mais c'est un livre qui m'a impressionnée, que j'ai aimé.
Oui, hein?
Ah oui, oui, oui.
Parlez-nous de ce livre un petit peu.
Oui.
Quelle est l'ambiance générale? Parce que, bon, l'histoire, on sait que ça doit être assez compliqué. Merci. C'est quand
dense,
même une bonne brique.
C'est très dense, oui. 500 pages.
Mmh. Mmh. On parle d'une histoire d'amour au départ.
En fait, c'est plus compliqué que ça. Vous savez, oui, il y a une trame amoureuse.
Ouais.
Mais en fait, le roman lui-même se passe en Inde.
D'accord.
Et c'est dans une région du sud de l'Inde, d'ailleurs. Et il commence en 1878 et il se terminera en 1939. Donc, c'est une longue fresque familiale sur 50 ans avec des destins croisés. C'est vrai, il y a l'amour, il y a la mort. Mais il y a aussi le secret et le silence qui jouent un rôle dans ce roman. Et en filigrane, ce qu'on voit d'intéressant aussi, c'est les changements dans la société indienne. Parce qu'au départ, c'est une colonie britannique, mais on marche vers un État indépendant.
Mm-hmm.
Alors, on voit effectivement les changements dans l'émancipation de la femme. On voit les changements dans les rapports entre les coloniaux, la population rurale.
Oui, oui, oui.
Voilà, tous ces conflits latents souvent, mais qui prennent leur place aussi dans le roman. Alors,
mais vous savez, quand je disais une histoire d'amour, il y a entre autres une critique ici de quelqu'un qui dit... découvert grâce à l'opération Masse Critique, donc apparemment il y en a eu beaucoup à l'époque quand c'est sorti, ce livre est un vrai coup de cœur pour moi, une histoire d'amour impossible qui ne tombe jamais dans l'eau de rose.
C'est très juste.
Des descriptions de paysages.
Oui, tout à fait.
Et comme vous venez de nous le dire très très bien, Jocelyne Allary, des coutumes de l'Inde qui nous font voyager, des rebondissements qui nous tiennent en haleine du début à la fin.
C'est vrai.
Alors là, écoutez, si c'est pas un bon livre, ça...
Non, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a même un critique qui a dit, c'est autant en emporte le vent en version indienne.
Ah!
Voilà.
Ah, ça, c'est alors, intéressant.
Alors, que vous dire, c'est qu'effectivement, on sait qu'il y a des fatalités qui orientent des destins. Et c'est toute cette histoire-là qui se trame autour de trois personnages principaux, mais qui, effectivement, est très dense, puisque c'est les familles élargies. C'est... Mm-hmm. Et là, toute cette fresque autour de, justement, le... bon, ça commence au 19e siècle, donc on parle des oracles, on parle des superstitions, des coutumes écrites. Et à un moment donné, il y a des très belles scènes avec un pèlerinage au temple, avec la préparation d'un repas de mariage, avec les rites funéraires même, qui sont impressionnants. Et puis, comme vous le citiez, il y a effectivement des descriptions de vie à la campagne, de vie à la ville, mais aussi la jungle avec la chasse au tigre qui est un point tournant dans le roman.
D'où le titre « Les collines du tigre ».
Voilà, et de l'extrait que j'ai choisi.
Parce que justement, je me disais, est-ce qu'il y a vraiment un tigre ou est-ce que c'est vraiment un lieu-dit? Il y a vraiment... On voit la bibite, là.
Ce sont les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la chasse au tigre qui est un événement important puisque... Depuis 30 ans, il n'y a pas eu de tigre tué dans le village, dans la région. Et le tueur de tigre devient un héros, devient un personnage très important, central, bien sûr, dans le roman. Mais effectivement, il donne le terrain où s'est passée la chasse aussi devient un lieu-dit qui s'appelle les collines du tigre, qui aussi a des conséquences sur la fin de l'histoire.
Il faut aussi que les gens qui nous écoutent s'imaginent, lorsqu'on rentre en cabine et qu'on part comme ça en Inde, quand on ouvre la porte tout d'un coup, en plein mois de janvier, je te comprends bien.
Non, c'est le dépaysement qui a joué aussi beaucoup dans la fascination de ce roman-là. Oui.
Je voudrais que vous nous lisiez un extrait. On va aller à l'extrait de... Parce que, honnêtement, finalement, j'en avais trouvé un aussi petit que j'avais prévu. Mais comme vous nous avez parlé d'un extrait précis, on va aller à cet extrait-là.
Très bien.
Nous sommes tout ouïes. Jocelyne Allary, bénévole chez Vues et Voix.
C'est effectivement au moment où il se passe la chasse au tigre.
D'accord.
Voilà. Alors, peu avant, un tigre s'était trouvé là, à cet endroit même. Il s'était fait les griffes sur l'écorce de cet arbre. En voyant la hauteur des marques, l'envergure des griffes, le traqueur secoua la tête avec stupéfaction. Ce devait être une bête énorme. Le cœur de Machu s'accéléra. Un tigre. Cela faisait des années qu'on n'avait plus abattu de tigre à Kourgue. Apaya Swami, faites qu'il vienne de mon côté. Un tigre tué par une balle de son fusil, et il serait considéré à jamais comme un héros. Le roulement des tambours s'éleva, trouant le silence de l'après-midi, et un instant après, ce furent les aboiements hystériques des chiens, la jungle s'anima. Le battement des tambours s'intensifiait, mais lui ne bougeait toujours pas. Et soudain, on l'entendit. Un rugissement à vous glacer la moelle des os qui pétrifia les chasseurs et fit taire les tambours l'espace d'un enfant d'un instant terrifiant. Alors, la jungle entra en éruption. Une multitude d'animaux cavalaient dans les sous-bois. Des singes bondissaient de liane en glapissant de frayeur. Les tambours réattaquèrent timidement, tandis que des nuées de perroquets et de ménates prenaient leur envol et donnaient l'alerte par leurs cris stridents. Machu sentit son pouls s'accélérer. C'était le moment qu'il attendait. Le tigre arrivait. Les oiseaux s'enfuyaient, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose, le fauve se dirigeait droit sur les chasseurs. « Faites qu'il vienne dans ma ligne de mire. Ayapa Swami, soyez-moi favorable. Faites que ce soit ma balle à elle seule qui l'abatte. » Il épaula son fusil, scrutant la jungle des yeux. Le grondement des tambours s'amplifia. Un second rugissement terrible s'éleva, faisant se redresser les cheveux sur la nuque de Machu, tandis que ses avant-bras avaient la chair de poule. Alors il apparut, un flot d'orange et de noir qui avançait rapidement, gagnant du terrain en grand bond souple pour se ruer dans la clairière.
C'est un extrait de la colline, les collines du tigre voilà. De Satyramandana, tel que lu chez Vues et Voix par Jocelyne Allary, qui est venue là elle-même nous en lire un extrait. C'est fou comme. Parce que moi, dans l'extrait que j'avais choisi, et on retrouve la même chose que dans celui que vous avez choisi, c'est beaucoup les bruits, justement. La jungle, et c'est. C'est essentiel.
C'est touffu, mais disons que quand elle est à la ville, quand elle est dans les relations avec les personnages en dialogue, c'est aussi très dense.
C'est aussi très dense.
Et il y a plein de sensations. Bien sûr, l'alimentation, mais aussi le toucher, la chaleur, l'humidité. À un moment donné, il y aura une grande plantation de café. On a l'impression qu'effectivement, il nous transmet.
C'est très tactile et c'est très... Oui, Louise Tremblay-Desciambre. Oui.
J'ai toujours dit que la lecture était quelque chose de sonore. On vient d'en avoir la plus belle des preuves en ce moment.
Oui.
Vraiment, on entend les oiseaux, on entend... Il y a un rythme. Quand les gens me disent, bon, c'est juste en ligne des mots, c'est...
Non.
C'est une phrase, on peut la tourner 10 fois pour arriver à avoir ce rythme qui là, le rythme montait.
On le sentait monter.
Oui. La répétition faisait que, oh, là, les oiseaux, ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient...
Ah oui,
c'est absolument génial.
C'est écrit d'une façon quand même relativement simple, dans la mesure où les phrases ne sont pas tarabiscotées.
Non, c'est ça.
Mais ça se lit tellement bien, c'est facile, c'est vivant et c'est accessible à tout le monde. C'est une belle histoire avec, bien sûr, il n'y a pas l'endroit. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Il y a toutes les émotions qui passent. Au fond, c'est une histoire d'amour qui met en scène des sentiments universels, des événements communs à tout le monde. Tout le monde a des joies, des tristesses. Tout le monde a des amours, des deuils. L'intimidation, la violence, l'orgueil... Tout ça est mêlé dans ces personnages qui s'entrecroisent pendant 50 ans.
Allez vous procurer ce livre.
Vous m'avez donné le goût de le lire. Et je vais retourner à Maria Chapdelaine aussi.
Oui, c'est vrai. Mais par contre, Sarita Mandana n'a écrit qu'un seul livre.
Oui, c'est
celui-là pour le moment.
Alors, pour l'instant, c'est bien celui-ci. Sarita Mandana, Les collines du tigre. Jocelyne Allary, merci beaucoup d'être bénévole ici. Merci pour votre excellent travail. Puis merci d'être venue aujourd'hui.
J'en retire autant de plaisir.
Pour nous parler de ce livre. Merci, Jocelyne. Bon retour à Granby. Soyez prudente sur la route, surtout.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Ça, c'est un petit peu ma bande-annonce pour la semaine prochaine, alors que je vais recevoir une autre bénévole, qui est Micheline Tremblay. Et Micheline Tremblay, elle a une passion dans la vie, c'est l'écriture de Abla Faroud. Abla Faroud, qui, je peux déjà vous le dire, pour l'instant, ne peut tellement pas venir. Elle est en pleine correction d'épreuves. Vous savez ce que c'est, Louise Tremblay-Desciambre. Et elle me dit, c'est absolument impossible. Et je suis là, je suis à genoux devant Abla Faroud. Et je lui dis, je vous en supplie, soyez des nôtres. Mais bon, en tout cas, et je ne peux pas vous raconter toute la cuisine de cette émission, mais tout d'un coup, retricoter une émission qui a déjà été tricotée, c'est difficile. Alors, on va quand même aborder l'œuvre de Madame Abla Faroud la semaine prochaine, notamment avec le sourire de la petite juive. Est-ce que vous avez lu Abla Faroud, Louise Tremblay-Desciambre?
Non, je ne connais pas.
Alors, c'est une femme qui vit à Outremont, sur la rue Hutchison. Et ce roman-là, c'est une espèce de fresque qui dépeint les gens qui vivent sur la rue Hutchison. Alors, elle fait se succéder des histoires et des personnalités d'origine et forcément et de cultures différentes. Notamment, elle fait beaucoup parler une petite fille qui est une juive hassidique. Et cette petite juive-là se confie à son journal intime. Je vous propose d'écouter un extrait de Le sourire de la petite juive de Abla Faroud.
Le journal de Hinda Rochel. Bonjour mon journal. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit parce que je ne suis jamais seule à la maison. Mes frères les plus jeunes jouent dans la cour arrière, le bébé dort et mon grand frère et mon père ne sont pas encore rentrés. Je sens que je vais pleurer si je ne peux parler à personne. Heureusement, j'ai mon journal. Ma mère est partie acheter un chaudron pour la viande. Par ma faute, ma mère a jeté tout ce qu'il y avait dans le chaudron, et le chaudron aussi, parce que je l'avais contaminé en mettant du beurre au lieu de la margarine. Quand j'ai vu ma bêtise, mon Dieu, quelle horreur, c'était vraiment par distraction, que Dieu me pardonne. J'ai fait semblant de rien, j'ai continué à brasser le bœuf émincé comme maman me l'avait demandé. J'ai ouvert toutes les fenêtres et la porte de la cuisine, et je priais pour que personne ne s'en aperçoive. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent.
jeter un beau chaudron avec un fond épais, avec toute la bonne viande qu'il y avait dedans et les bons légumes, et la cuillère en acier pour remuer, c'est du gaspillage. Mais l'odeur du beurre sur la viande est arrivée, malgré mes prières, jusqu'au nez de maman. Elle était dans la chambre de mes frères en avant de la maison, en train de s'occuper du bébé qui pleurait. Elle a senti le mélange défendu. Les autres gens auraient trouvé cela bon. Moi aussi, si j'avais été élevée par des goyes. Mais c'est ça le problème. Nous, on n'est pas habitués.
Ah, non, j'adore. C'est de Abla Faroud, le sourire de la petite juive. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, je reçois Micheline Tremblay qui va venir nous parler de ce livre-là à l'émission Un livre découvert.
Quelques nouveautés en rafale.
Ça veut dire que la fin de l'émission est proche. Mon Dieu, que ça passe vite, une heure. Hein? Quand on est en bonne compagnie, c'est assez incroyable. Eh bien, figurez-vous que vient de paraître en audio au SQLA Maria Chapdelaine après la résignation. C'est signé Rosette Laberge. Ça, c'est un roman, il paraît, qui est très attendu par un paquet de monde. En fait, c'est une espèce de suite à Maria Chapdelaine. Cette femme-là, Madame Laberge, a imaginé une autre histoire. Et là, je vois le regard très, très inquiet de mes camarades autour de moi. Près de 100 ans. Mais non, mais écoutez, peut-être que c'est intéressant. Près de 100 ans après l'apparition du livre original de Louis Aymon, l'héroïne canadienne nous revient avec cette histoire nouvelle qui habitera apparemment longtemps le cœur du lecteur. Il paraît que c'est très, très bon. Bon, en voulez-vous un extrait? J'en ai un extrait. Allez, c'est parti.
Péribonka, août 1909. Pourquoi les bleuets sont bleus? Demande Alma Rose à Maria en tirant sur sa manche. Un faible sourire sur les lèvres, Maria regarde sa petite sœur. Depuis la mort de leur mère, la fillette la suit partout, même à la Bécosse. Jusque-là, plutôt sauvage et solitaire, Maria a dû faire bien des efforts pour s'habituer à cette nouvelle réalité et surtout pour réconforter l'enfant. Elle ne le lui a jamais dit, elle ne dit pas ces choses-là, mais elle l'aime plus que tout au monde, tellement qu'elle donnerait sa vie pour sa cadette. Au plus profond d'elle-même, elle rêve d'apprendre à lire et à écrire. Elle pourrait ainsi répondre aux questions de sa sœur en lisant tous les livres qui lui tomberaient sous la main. Mais les rêves ne se réalisent jamais. La vie le lui a prouvé à plus d'une reprise. Elle lui a d'abord enlevé son beau coureur des bois, François, mort gelé en plein cœur de décembre, alors qu'il venait lui rendre visite. Le jour où elle a appris la mort de son soupirant, elle s'était promis de fuir ce maudit pays qui venait de lui prendre ce qu'elle avait de plus précieux. Au moment où elle s'apprêtait à suivre Lorenzo, son deuxième prétendant, jusqu'en Nouvelle-Angleterre, sa mère est décédée. Là-bas, il aurait pu recommencer sa vie. Lorenzo n'avait rien en commun avec François, mais la vie qu'il lui offrait avait ses avantages. Elle aurait pu apprendre à lire et à écrire, mais surtout, elle aurait vécu entourée de gens plutôt que d'arbres, comme sa mère l'a souhaité durant toute sa vie.
Voilà, Maria Chapdelaine, après la résignation de Rosette Laberge. De José Saramago maintenant, La Lucarne. Ça, c'est le premier manuscrit, en fait, de José Saramago, qui a été retrouvé 60 ans. En fait, il a mis 60 ans avant d'accepter de le publier. Un livre qui est un petit bijou, nous dit-on, qui raconte, c'est une histoire de couple qui se haïssent, de femmes entretenues, d'une jeune fille ambitieuse qui devient la rivale d'une autre, de quatre couturières amoureuses de Beethoven et de Diderot. Là-dedans, il y a aussi un cordonnier philosophe et son locataire. C'est du Saramago dans tout ce qu'on aime quand on aime Saramago, cet auteur portugais, je vous le rappelle. À un moment donné, il y avait une critique dans l'actualité, on nous disait « À la qualité psychologique du livre, il faut ajouter sa dimension poétique qui se traduit par une grande finesse d'expression. Saramago ne se laisse jamais aller à trop en dire, ce qui n'équivaut pas pour autant à une quelconque sécheresse. » J'ai aussi envie de vous parler de L'air d'été est rempli de promesses.
Ça, c'est le roman d'enquête du jour. Vous qui aimez les polars, Louise Tremblay et Desciambre, ça, c'est le polar du jour. J'en propose toujours un. Mais toutefois, il n'y a pas de meurtre. Mais c'est quand même un polar.
Ah, pas besoin de meurtre.
Ah, il n'y a pas besoin de sang, forcément. Lorsqu'un tableau de Nicolas Poussin, c'est le résumé, est volé à un riche propriétaire foncier, celui-ci demande à Isabelle Dalhousie, philosophe et directrice de la revue d'éthique appliquée à Édimbourg, de l'aider. Apparemment, c'est une série. Alors, si vous en lisez un, vous allez tous les lire parce qu'il paraît que c'est très, très bon. Il me reste combien de temps, mon ami? Quasiment rien. Hein. Une petite minute. Ce livre-là, L'air d'été rempli de promesses, c'est d'Alexander McCall Smith. J'espère que je prononce bien. McCall, M-C-C-A-L-L. Et puis Smith comme Smith. Voilà. Et puis, tenez, je finirai quand même par ça. Si vous aimez le bonheur, si vous êtes à la recherche du bonheur, Le bonheur s'offre à vous de Masami Sayonji. C'est toute une quête pour trouver le bonheur. Et apparemment, si vous lisez ce livre, vous allez le trouver. Il me reste 22 secondes pour vous remercier, Louise Tremblay-Desciambre. Je vous embrasse au nom de tous ceux qui vous lisent et vous écoutent.
Ce fut un réel plaisir.
Merci. Merci infiniment. Et puis, je remercie aussi Jocelyne Allary, bénévole. Merci. À bientôt, Jocelyne.
Oh oui, certainement.
Bon retour à Granby. Merci, Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être là. Bonne lecture et à la semaine prochaine.